Amen. Dieu est bon. Bonjour à tous. Je remercie Bruno et toute l'équipe aussi pour leur confiance et ce privilège que j'ai de pouvoir partager ce message ce matin devant vous. Pour moi, ça a une valeur vraiment très forte et c'est vraiment un honneur puisque, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, avant l'église Beth-Salel à Bondu était à Marc-en-Barœul. Et j'habitais juste devant, en fait, quand j'étais petit. Donc, je m'amusais à y aller. Et je m'amusais aussi à faire, pendant la louange, quand j'étais pas intéressé, je rentrais chez moi et je jouais à la console. Mais Dieu a changé mon cœur au fur et à mesure. Et voilà, c'est vraiment un honneur. Le thème de mon partage ce matin, c'est « Encore plus de toi ». Et c'est fort comment le Seigneur conduit les choses. Parce que voilà les trois mots que j'avais sur mon cœur, c'était consoler, brûler, remplir. Et vraiment, ces trois mots sont vraiment venus ce matin pendant la louange, par des paroles diverses, par ce que Bruno a pu dire, par ce que Simon a pu ressentir aussi pendant la prière, remplir. Et je pense qu'on... Plusieurs personnes, ce matin, sont au moins dans l'un des cas. Certains ont besoin d'être consolés. D'autres ont besoin que ça chauffe dans leur cœur, que ça puisse brûler, que les choses puissent changer aussi, purifier. Et d'autres ont besoin d'être remplis. Et en toute sincérité, je savais pas comment j'allais commencer mon message, mais je sentais fortement dans mon cœur que c'était important de voir quelques points sur l'aspect du Saint-Esprit. Je ne vais pas vous prêcher sur le Saint-Esprit même, mais juste voir quelques points clés. Le Saint-Esprit, c'est un don et c'est une promesse pour tous. Il est donné à ceux qui le demandent, à ceux qui obéissent à Dieu, et il se reçoit par la foi. Le Saint-Esprit nous convainc de péché. Dans Jean 16, verset 8, on peut voir « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice » et de jugement. Ça, c'est important. Le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc. Mais c'est celui qui console aussi. Le Saint-Esprit est un consolateur. Le Saint-Esprit est un consolateur. Il convainc aussi de péché, et il y a divers dons, mais un seul et même esprit. L'esprit demeure dans le cœur du croyant, et il est un consolateur. On a parlé de remplir. On a parlé de cœur. Si nos cœurs sont vides, mais la promesse, c'est que l'Esprit de Dieu demeure dans nos cœurs. Jean 14, 16, 17 nous dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Il est avec nous, mais il est en nous. L'amour de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, est en nous. C'est important de pouvoir prendre conscience de tout cela dans notre relation chrétienne et par la suite sur le passage que nous allons prendre ensemble. Il y a différents symboles dans le Saint-Esprit, je vais juste passer vite fait, mais la parole nous parle que de souffle et de vent. On le voit quand il insuffle en Adam, quand le souffle vient en Adam et qu'il donne la vie. Sous forme de colombe, on le voit dans Noé, on le voit aussi lors du baptême de Jésus, le Saint-Esprit qui descend comme une colombe. Aussi, l'huile, souvent le Saint-Esprit est représenté aussi avec l'huile, mais... Un point où on va regarder aujourd'hui aussi, c'est le feu. Quand les disciples ont attendu, quand Jésus leur a dit d'attendre que le Consolateur puisse venir, il y a eu des langues de feu qui sont venues sur la tête des disciples. Des langues de feu. Et là, on a vu que les disciples ont commencé à vivre quelque chose de puissant. Il y a eu un élan qui, sans cet esprit, sans cette langue, sans ces langues de feu qui seraient venues, et ça bouillait plus en eux. Ils avaient l'espérance, ils avaient la foi, mais il manquait quelque chose en plus. Et c'était ce Saint-Esprit. Il a agi comme consolateur avant tout. C'est important de le savoir. Il a agi comme consolateur avant tout, mais aussi avec une puissance. Et on parle souvent de feu. Et le feu, ben, c'est pas juste être bouillant pour Dieu. C'est pas juste commencer à crier. C'est pas juste commencer à faire des grandes manifestations non plus. Le feu a plusieurs symboliques dans la Bible. Et quand le Saint-Esprit vient en nous, il vient aussi comme un feu pour détruire tout ce qui est mauvais dans la vie du chrétien et aussi tout ce qui est charnel. Et c'est là où on commence à bloquer quand on s'approche de Dieu. Parce que tout ce qu'on aime, charnellement, ben, c'est là où le combat se fait. Matthieu 3, 11 nous dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le feu dans la Bible est référencé dans plusieurs aspects. On le voit dans la nature, dans la vie quotidienne, on le voit comme agent de destruction durant les guerres, on le voit aussi dans les sacrifices, mais on le voit aussi dans la purification. Et comme on l'a vu précédemment, on le voit aussi, ben, que ce soit dans les sentiments humains, mais on le voit aussi quand le Saint-Esprit est descendu. Le mot « chaleur » en hébreu, ça veut dire « mal », pardon, ça veut dire « choreb ». Sécheresse, désolation, chaleur, chaleur desséchante. Généralement traduit par chaleur sec, desséchée, ravagée, dévastation, sécheresse, désert. Quand on lit ça, ça fait un peu déprimé. Mais en fait, c'est important. Parce qu'on veut être bouillant pour Dieu. Est-ce que vous voulez être bouillant pour Dieu? Moi, je veux être bouillant pour Dieu. Mais quand on veut être bouillant pour Dieu, ben, il y a un travail qui va venir. Et il y a quelque chose de fort, c'est que sans énumérer les péchés, on sait très bien, nous, en tant que chrétiens, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et même les gens qui ne sont pas chrétiens savent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien devant Dieu. Quand on parle avec des amis ou des collègues qui sont pas croyants, bah souvent, ils nous chambrent. Si on fait quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu, ça va être les premiers à nous dire, ben là, toi, en tant que chrétien, c'est bien ce que tu fais. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Dans notre tête, on le sait. Et c'est là, en fait, où le combat est important. Notre tête, nos pensées, nous, on sait ce qui est bien et ce qui est pas bien. J'ai pas besoin d'énumérer divers péchés, on le sait, on connaît la Bible. Mais quand est-ce que ça change vraiment? C'est quand le Saint-Esprit vient nous parler. Il nous console, oui. Parce que quand on avance dans un péché, c'est parce qu'il y a des blessures. Il nous console, mais il commence à brûler les choses. Et brûler, chauffer, ça fait pas forcément toujours du bien. Ça nous amène à être dans la chaleur sec, dans tout ce qui est ravagé, dévasté. Et des fois, quand on est dans le désert, ben, Dieu il profite de ce désert pour chauffer encore plus. Et ça fait mal. Mais une fois qu'on est dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu il nous laisse dans la sécheresse? Non, il vient brûler toutes ces choses-là. Mais après, Dieu il vient et il nous remplit. Et rempli en hébreu, la définition, là, c'est le côté vraiment plus joyeux. Hein, c'est plein, plénitude, ce qui remplit. Pleinement. Généralement traduit par plein. Rempli, comblé, valeur, abondance, argent, abondamment, chargé, enceinte. La vie, impétueux, pleine voix, couvert entièrement. C'est fort, hein? Mais c'est aussi pour dire, ben, des fois, quand on prie, c'est ça ce qu'on demande. Parfois, quand on dit, ben, brûle les choses qui sont mauvaises, ben, on demande toutes ces choses-là, mais c'est bon, ça fait mal. Humainement parlant, des fois, c'est difficile, parce que Dieu vient travailler nos émotions. Mais quand on dit à Dieu, remplis-nous, Retenez bien qu'on demande aussi toutes ces choses-là, comblées, valeur, abondance, enceinte, même pour nous les hommes. La vie, quand on prie des fois dans nos entrailles, ça travaille, parce que Dieu met la vie. Et c'est ça quand on cherche Dieu, encore plus de toi, encore plus de toi. On veut ressentir sa vie en nous, on veut ressentir son amour en nous, on veut vivre pour lui. Mais ça fait pas toujours du bien. Une femme enceinte qui attend un bébé, elle est super heureuse. Mais qu'est-ce qu'elle a mal? Son caractère change. Il y a plein de choses. Elle commence à nous dire, toi tu devrais faire ça au lieu de rester là comme ça. Aide-moi. Mais voilà, c'est la vie. Mais malgré la difficulté, les douleurs de l'enfantement, comme on dit, il y a la vie. Et après, il y a la joie. Quand mon épouse a accouché, elle était fatiguée. J'ai pris une photo d'elle. On aurait dit qu'elle était comme morte. Mais il y avait la vie. Et après, il y a la joie de l'enfant quand on le voit marcher, quand on le voit grandir. Et notre relation avec Dieu, si on la voit comme ça, elle sera beaucoup plus belle. Et il y a une raison. Parce que Dieu, il veut qu'on puisse voir les choses, pas comment nous on les voit, comment on les perçoit, mais comment Dieu, il veut qu'on puisse voir les choses. Et quand on passe du temps dans sa présence, quand on cherche sa face, les choses qui étaient obscures pour nous, Dieu commence à nous éclairer et nous donner un autre regard. Je vais vous inviter à prendre le passage dans Luc 23, 13 à 35. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Il faut savoir que c'était après que Jésus soit mort et ressuscité. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Quoi ? Moi, j'aime bien Jésus. Franchement, il est génial. Il fait style de rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais parce que Jésus était dans une autre dimension déjà. Il est ressuscité. Il était déjà dans l'attitude, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il leur dit, ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivre Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. » L'espérance des disciples n'était pas dans la même espérance que Jésus. Ils attendaient un sauveur pour Israël. Mais l'espérance de Jésus, c'était un sauveur pour le monde. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Amen. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Vous voyez, il attaque l'intelligence et il revient sur le cœur. Parce que le cœur, c'est le plus important. On a beau connaître la parole de Dieu, on a beau savoir toutes les choses, mais si le cœur n'est pas touché, ton cœur restera lent à croire. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais il le retint avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il rentra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais ils disparurent devant eux. Ça fait flipper, ça. Hein, ça fait débloquer, très sincèrement. Ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas en nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qu'ils leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. C'est fort ça. Les disciples ont passé plusieurs temps avec Jésus, plusieurs jours, plusieurs années. Il est mort et ressuscité, mais dans leur tête, c'était inconcevable. Malgré que les femmes avaient dit, voilà, le tombeau est vide, Jésus est ressuscité. Ils voient un homme, ils ne le reconnaissent pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un que vous connaissez, mais vous ne l'avez pas reconnu? Ça fait bizarre, hein. Moi j'ai une petite anecdote. Une fois, j'étais dans le métro, avec la barbe, la grosse doudoune, le bonnet, et j'étais assis en train de regarder un journal. Il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de moi, et je sentais la personne qui regardait mon journal. Et voilà, moi je lisais le journal, parce que dans le métro, en général, on s'ennuie, quoi. C'est vrai. Hein. Soit c'est les écouteurs, les journaux ou autre. Et je vois la personne qui se lève, on arrive à Gare Lillefland, je vois la personne qui se lève et qui sort. Et je regarde à travers la vitre, me disant bah, qui est-ce qui regardait le journal avec moi. Et je vois, je me dis, c'est Geoffrey. C'est Geoffrey. On a fait Tourcoing jusque Lille sans se parler. Et je vais le voir après. Et on se voyait du dimanche. J'ai dit Geoffrey, j'ai dit, tu sais, l'autre jour j'étais dans le métro et je pense que t'étais à côté de moi. Il fait bah tu sais, moi j'étais dans le métro, mais j'ai vu quelqu'un avec une barbe, un bonnet, une grosse doudoune. Mais je me suis dit bah c'est pas Claudio, il est toujours bien rasé et tout. J'ai dit bah si, c'était moi. Et vous savez ce qu'on s'est dit? On aurait pas pu passer un de ces bons moments dans le métro au lieu de regarder le journal. En plus lui il a dû subir. C'était un article où l'Italie avait gagné, donc ça devait être difficile. Ça devait être très dur pour lui. Donc voilà, mais voilà, Jésus est mort et ressuscité. Il se présente aux disciples. Il commence à les enseigner. On voit les deux disciples sont en dépression. Excusez-moi de l'expression, mais c'est ça. Quand on perd quelqu'un de proche, c'est difficile. Et quand mon père est décédé, ben j'étais dans la voiture avec mon frère et on parlait, on se racontait toutes les bonnes choses. On avait oublié les fois où il se mettait en colère en fait. On repense qu'aux bonnes choses. Hein, des fois où il nous disait des belles paroles en italien et tout. Mais voilà, on repense aux bonnes choses. Et c'est là où des fois on prend conscience que la personne nous manque encore plus que quand on était proche d'elle. Et là, il y a Jésus qui vient et qui fait semblant. Il est rusé, hein, Jésus. Mais c'est ça qui est fort. Parce qu'il veut que ce soit nos cœurs qui s'ouvrent. Regardez bien dans le passage, à aucun moment il dit « c'est moi Jésus ». À aucun moment il le dit. Il attend que le cœur des disciples puisse s'ouvrir. Mais ce qui est fort, c'est que tout le long du chemin, il y a quelque chose qui travaille. Et Jésus commence à témoigner. Il donne des paroles de vérité. Il commence à les enseigner. Pour nous, si on croise une personne qu'on ne connaît pas dans la rue et qui commence à nous enseigner la parole, ben on va commencer à être un peu méfiant. C'est vrai ou c'est pas vrai? On va se dire dans où il veut nous emmener. Mais si c'est guidé par l'Esprit, c'est peut-être un ange que Dieu a placé aussi. Jésus les reprend et les enseigne. Et c'est fort quand il dit « hommes sans intelligence dont le cœur est lent à croire ». Ils ont commencé à croire quand ils ont réalisé que c'était Jésus. Mais ils reconnaissaient une chose, c'est qu'il y avait quelque chose dans leur cœur qui brûlait. Ils n'avaient pas l'explication encore. Mais l'explication est venue quand ils ont reconnu que c'était Jésus. C'est au moment où Jésus commence à rompre le pain, l'alliance, son corps qui est mort pour nous, le sang qui a coulé pour nous purifier de tous nos péchés. Les disciples ouvrent les yeux et ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au fond de nous ? Je vais prendre une petite image. Moi, j'aimais bien Jésus, il disait des paraboles que les disciples ne comprenaient pas. Donc moi, j'ai essayé de prendre une parabole pour que vous, vous puissiez comprendre et que moi aussi. Parce que sachez que moi, ça me parle toujours, en fait. Même quand je prépare un message, avant tout, c'est aussi pour nous personnellement et pour l'Église. Donc ça, c'est une bouilloire, ok ? Qu'elle soit belle ou pas, peu importe. Mais Jésus, ok ? Ça, c'est Jésus, ok ? Ça, c'est Dieu. En Dieu, il y a la vie. Il y a tout ce qu'il faut. Et Jésus a permis, Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour qu'on soit connecté à lui. D'accord ? Mais il y a quelque chose, là. Jésus, là, je vous montre un Jésus, on va dire entre guillemets vide, pour utiliser un peu les termes qu'on avait dit. Mais on sait que quand Jésus, il y avait quelque chose qui était éternel en lui, c'était la vie. D'accord ? Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs symboles. Et on a prêché, Bruno a prêché la semaine passée en parlant de la source. De la source. Et en Jésus, il y avait cette source. Et donc, Jésus, en lui, il y avait le Saint-Esprit. S'il y avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là. D'accord ? Mais il fallait quelque chose d'important aussi pour le plan, c'était ne fallait-il pas que le Fils souffre ? Et on a sacrifié Jésus. D'accord ? J'ai appuyé un peu longtemps parce que... Et pendant que Jésus était en train de mourir, pendant qu'il était mort, le temps qu'il ressuscite, ben ça c'était les disciples. Mais ça c'est nous aussi. Une tasse. Avant Jésus, on est vide. Ok ? Mais aujourd'hui, comment on se situe ? Est-ce qu'on est plein ? Est-ce qu'on est vide ? Ou peut-être que la tasse est pleine ? Il y a l'esprit en nous, mais on le laisse se refroidir. Et en fait, cette tasse-là, moi, ce que j'aime bien dans cette tasse, c'est que elle est colorée. Et chaque vitraux, c'est des vitraux à l'intérieur, sont noirs. Et chaque vitraux peut représenter quelque chose dans notre vie. Ça peut être un péché. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être une maison, ça peut être peut-être même aider une personne. Mais tout ça, ça peut être notre cœur. Et notre cœur est fragile, il faut en rien pour qu'il se brise. Et on a besoin de quelque chose en plus, c'est du Saint-Esprit. Et quand on prie, quand on passe du temps dans la présence de Dieu, nos cœurs commencent à se remplir. Quand on lit la parole, nos cœurs commencent à se remplir. Mais il faut pas la lire avec sa tête. On a beau surligner les plus beaux versets dans la Bible. On a beau même les interpréter. Si ça bouillonne pas dans nos cœurs, il y aura rien qui change. On sera une tasse peut-être vide. Ou une tasse simplement, avec de l'eau froide. Mais quand on commence à passer du temps avec Dieu, regardez les disciples, au plus ils étaient avec Jésus, je l'ai pris ici, au plus ils étaient proches de Jésus, au plus ils étaient remplis d'espérance. Au plus ils étaient en train de boire les paroles de Jésus, au plus leur cœur était en train de bouillir. Quand nous sommes proches de Jésus, on est visité par son amour. On apprend encore plus de lui. On veut encore plus de lui, car ça chauffe au fond de nos cœurs. Quand ça brûle au fond de nous, les doutes brûlent. Et les parties inutiles qui nous empêchent de voir Christ, de voir les desseins pour nos vies, disparaissent aussi. Maintenant, imaginez la chose la plus dure qui est dans votre cœur aujourd'hui. La plus dure. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de l'amour de Jésus. Sans son amour, on reste une tasse comme ça. Mais Jésus a déversé son esprit, son sang pour nous, pour nos péchés. Et regardez, ça fume, hein. On le voit. Quand ça chauffe en nous, on le voit. Mais regardez bien la tasse. Qu'est-ce qui va se passer pour nos vies? Tout commence à se dessiner. Là où c'était difficile pour ta vie, le Saint-Esprit vient et commence à révéler. Peut-être que dans ton couple, tu vois des choses où tout est noir. Mais quand tu regardes au travers des yeux du Seigneur et que le Saint-Esprit te remplit, il se passe quelque chose. Tu as peut-être un péché qui est difficile dans ta vie. Mais quand tu laisses le Saint-Esprit venir en toi, c'est plus ton cerveau qui résonne et qui essaye à détourner les paroles de ce que la Bible dit. Mais le Saint-Esprit te convainc. Quand tu as un projet où ça traîne, peut-être que le Saint-Esprit va te révéler. Soit continue, soit arrête. Mais c'est le Saint-Esprit qui révèle. On a des beaux projets. Moi, il n'y a pas longtemps, mon cœur était travaillé. Je voulais aider des personnes. C'était vraiment, j'avais mal au cœur pour les personnes. Je savais qu'il y avait des personnes qui étaient dans la souffrance. Je voulais les aider et je cherchais une solution. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? C'est pas ton combat. J'ai reçu ça dans mon cœur. C'est dur, hein? C'est pas ton combat. Et là, tu commences à négocier avec Dieu. J'ai dit, non, mais attends, on doit s'aider les uns les autres, on doit s'aimer, on doit se soutenir. C'est pas ton combat. Sois là où Dieu veut que tu sois. Et les disciples commencent à dire, nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand il nous enseignait, quand on était proche de lui? Ça va aussi avec notre premier amour. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas? Quand j'ai rencontré Dieu, j'ai vu la vie différemment. Il a changé ma vie. Après, c'est vrai, il y a des choses, je m'imaginais comme ça, je suis peut-être encore sur la première case. Hein. Mais tout ça, c'est notre vie, notre cœur. Notre vie, notre cœur. Proverbe nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là proviennent les sources de la vie. Et dis pas, garde ta tête, garde ton cœur. Après, c'est le Saint-Esprit qui va renouveler nos pensées, notre intelligence. Mais avant tout, c'est notre cœur. C'est cœur à cœur. C'est le cœur à cœur qui agit vraiment. Et c'est là où on a besoin de la présence de Dieu. Et la solution, elle est simple. Chercher Dieu avec notre cœur. Lire la parole avec notre cœur. Pleurer avec notre cœur. Et quand ça chauffe, on va peut-être crier. Des fois, la douleur, elle est tellement intense qu'on a besoin de crier. Mais Jésus aussi a crié sur la croix. Il a crié pour tes péchés, pour mes péchés, pour nos péchés. Mais c'était un cri d'amour. Un cri qui consume son amour, sa vie, son esprit, sa joie. Oh Seigneur, on a un Dieu glorieux. Il n'est plus mort en fait. Il est ressuscité. Il est venu ouvrir nos cœurs. Il est venu chasser tout ce qui n'était pas à sa gloire. Il est venu arracher nos âmes de l'enfer. Arracher nos âmes de l'enfer. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand il était avec nous? Et aujourd'hui, mon cœur ne brûle-t-il pas quand j'entends parler de sa parole? Nos cœurs ne bouillonnent-ils pas? Quand on est avec nos amis, ça nous fait du bien. Il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé un message à un pote et je lui ai dit, ah, j'ai envie de me faire un McDo avec toi. J'ai envie d'aller au cinéma avec toi. J'ai envie de jouer à la PlayStation avec toi. Ouais, des choses humaines. Parce qu'on est bien avec nos amis. C'est pas que spi. Mais c'est une relation, un cœur à cœur. Et on a besoin de ça avec Jésus. Un cœur à cœur. Un cœur à cœur. Et ce matin, si t'as des soucis, ce matin, si t'as des projets, ce matin, s'il y a quelque chose qui te peine dans le cœur, ce matin, si t'as le cœur vide, lève-toi et on va prier pour toi. Oh, oh Jésus, Jésus. Levez-vous vraiment si vous avez vraiment un cœur compris pour vous. Oh Dieu, tu descends maintenant. Oh Dieu, tu touches maintenant. Oh Dieu, on plie les maintenant. Oh Dieu, tu touches maintenant. Oh Dieu, tu remplis maintenant. Oh Dieu, tu touches maintenant. Maintenant, oh Dieu, tu souffles maintenant, oh Dieu, remplis-les maintenant, crie à Dieu, oh Dieu, tu touches maintenant, oh Dieu, tu souffles maintenant, oh Dieu, remplis-les maintenant. Seigneur, qui se sont avancés, Seigneur. Les cœurs qui se sont levés, tu bénis même les personnes qui sont restées assises. Je prie pour que tu consoles nos cœurs. Je prie pour que tu brûles dans nos cœurs. Je prie pour que tu remplisses nos cœurs. Que cette semaine, nous puissions chercher ta face encore plus avec nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu nous as sauvés. Tu nous as lavés, Seigneur. Et Seigneur, merci, Seigneur, parce que je sais que tu brûles encore en nous en 2021. À toi la gloire, Jésus.